Hezbollah a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi deux drones explosifs en direction de soldats israéliens déployés sur la crête d'Ali Al-Taher dans la zone de sécurité du sud du Liban. La Maison-Blanche a réaffirmé aujourd'hui qu'aucune négociation n'est en cours avec l'Iran alors que Washington cherche à serrer la vis à Téhéran par le biais de sanctions économiques. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti aujourd'hui que tout nouveau lancement de ballons de cerfs-volants depuis la bande de Gaza vers les localités du sud d'Israël entraînerait désormais une riposte puissante. Et enfin en Belgique, face à la multiplication des fusillades liées au trafic de drogue, Bruxelles renforce son dispositif de sécurité. Le Hezbollah a lancé la nuit dernière deux drones explosifs en direction de soldats israéliens déployés sur la crête d'Ali Al-Taher dans la zone de sécurité du sud du Liban. C'est ce qui a été annoncé par Tsahal. Les militaires israéliens ont ouvert le feu et abattu l'un des appareils. Le contact avec le second drone a été perdu sans que l'armée précise ce qu'il était devenu. Aucun blessé n'a été signalé dans les rangs de Tsahal. Les deux drones auraient visé des soldats opérant à l'intérieur de la zone de sécurité établie dans le cadre de l'accord de cesser le feu. Tsahal présente cette attaque comme une nouvelle violation de l'accord par le Hezbollah. Et puis justement, l'armée israélienne a déclaré avoir mené une série de frappes contre des infrastructures du Hezbollah dans la région de Nabatieh, au sud du Liban, à la suite de l'attaque par drone perpétrée hier soir par le groupe terroriste contre des soldats. Selon l'armée, les cibles comprenaient des sites servant à stocker des armes que le Hezbollah comptait utiliser pour mener des attaques contre des soldats et des civils israéliens. Ces frappes ont eu lieu après que le groupe terroriste eut lancé deux drones contre des soldats opérant sur la crête d'Ali Al-Taher, comme on le disait précédemment, au pied de laquelle le Hezbollah dispose d'une importante installation souterraine. Les troupes de l'armée israélienne ont abattu l'un des drones et ont perdu le contact avec le second, selon l'armée. Aucun blessé n'a été signalé lors de cet incident. La Maison-Blanche réaffirme qu'aucune négociation n'est en cours avec l'Iran alors que Washington cherche à serrer la vis à Téhéran par le biais de sanctions économiques. Il n'y a ni pourparlers, ni discussion en cours, ni prévue avec la République islamique d'Iran. Ce sont les mots d'Anna Kelly, porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, dans un communiqué. Le blocus naval reste pleinement en vigueur et l'opération Economic Outcast est en cours afin de couper toutes les dernières sources de revenus qui soutiennent le régime, a-t-elle ajouté. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré à Fox News « Aucune négociation n'a lieu pour le moment et cela continuera jusqu'à ce que le président estime qu'ils sont prêts à s'asseoir à la table des négociations de manière constructive. Nous n'en sommes pas encore là », a-t-elle déclaré. Et puis dans le cadre de ces négociations, le Premier ministre du Qatar s'est rendu aujourd'hui à Téhéran dans le but de relancer le dialogue diplomatique après que les États-Unis et l'Iran se sont mutuellement accusés à la suite de la promesse faite par Washington d'intensifier la pression économique sur Téhéran en imposant des sanctions à ses partenaires commerciaux. Le Premier ministre qatari, le cher Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, devrait aborder la poursuite des efforts de médiation du Qatar ainsi que d'autres développements dans la région au cours de sa visite. C'est ce qu'avait déclaré ce matin à l'avance le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Bagaye. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas de nouvelles par rapport à cette rencontre. Israël ne rouvrira pas le poste frontière d'Erez avec la bande de Gaza. C'est ce qu'ont déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz suite à de récentes informations selon lesquelles une telle mesure était prévue. Auparavant, des médias hébraïques avaient rapporté que Tsahal se préparait à ouvrir le poste frontière d'Erez pour permettre l'entrée de marchandises à Gaza et non pour la circulation piétonne suite à des pressions exercées par les États-Unis. Selon ces informations, cette mesure aurait été approuvée par le Conseil de sécurité nationale placé sous l'autorité du cabinet du Premier ministre. Les informations indiquaient que le 1er septembre était la date butoir fixée à Israël pour ouvrir le point de passage. Cependant, Benjamin Netanyahou et Israël Katz ont douché ses espoirs affirmant qu'il n'y a aucune directive visant à ouvrir le point de passage des rails aux marchandises. La politique d'Israël à Gaza est claire et n'a pas changé. Il n'y aura pas de reconstruction tant que l'organisation terroriste du Hamas n'aura pas été désarmée et que la bande de Gaza n'aura pas été entièrement démilitarisée, ont-ils ajouté dans un communiqué commun. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti aujourd'hui que tout nouveau lancement de ballons ou de cerfs-volants depuis la bande de Gaza vers les localités du sud d'Israël entraînerait désormais une riposte puissante, estimant que l'ultimatum fixé par Israël avait expiré. Israël Katz s'exprimait lors d'une évaluation de la situation sécuritaire menée avec le chef d'état-major de Tzahal, le général Eyal Zamir, ainsi qu'avec d'autres hauts responsables de l'armée et de l'appareil sécuritaire. L'ultimatum que nous avons fixé après les lancements de ballons et de cerfs-volants depuis la bande de Gaza vers les localités du Negev a expiré, a déclaré le ministre. Nous avons clairement indiqué que de notre point de vue, tout lancement constitue un acte terroriste à part entière et c'est ainsi que nous le traiterons. Fin de citation. Selon Israël Katz, toute nouvelle attaque donnera lieu à une riposte contre les responsables, les organisateurs et les auteurs des lancements, mais aussi contre des sites utilisés et les infrastructures qui les soutiennent. Et puis, dans cette réunion, le chef d'état-major de Tzahal, le général de corps d'armée Eyal Zamir, a lui déclaré avoir ordonné un renforcement important des effectifs en Judée-Samarie compte tenu des récentes tensions dans la région. De nombreux défis nous attendent, nous perfectionnons nos procédures de combat sur tous les fronts, de l'Iran au Liban en passant par Gaza, et nous sommes en état d'alerte maximale face à l'instabilité qui règne sur plusieurs fronts. C'est ce qu'il a déclaré ce matin lors d'une réunion d'évaluation avec les hauts responsables de l'armée. Le site d'information Walla rapporte que le premier ministre Benjamin Netanyahou a mené des négociations directes avec un haut responsable du Hamas pendant la guerre de Gaza de 2014 à l'insu des responsables israéliens de la sécurité. Selon cet article qui cite un ancien haut responsable du Conseil national de sécurité israélien, Benjamin Netanyahou a été mis en relation avec Ghazi Hamad, responsable du Hamas, par Shlomi Fogel, un associé de Benjamin Netanyahou. À l'époque, il occupait le poste de vice-ministre au sein du gouvernement du Hamas à Gaza. Les entretiens entre Benjamin Netanyahou et Ghazi Hamad ont eu lieu alors que des négociations officielles étaient en cours au Caire pour mettre fin à cette guerre qui durait depuis un mois. C'est ce que précise toujours l'article de Walla, qui ajoute que la délégation du Caire n'était pas au courant de ces pourparlers secrets menés par Benjamin Netanyahou. Le cabinet du Premier ministre a démenti aujourd'hui ces informations, affirmant qu'aucune discussion de ce type n'avait jamais eu lieu. Il s'agit de fausses informations diffusées par des acteurs politiques cherchant à nuire au Premier ministre, c'est ce qu'a indiqué le cabinet du Premier ministre dans un communiqué. Toujours dans un communiqué, Shlomi Fogel a lui affirmé n'avoir jamais été envoyé par le Premier ministre ni par le chef du Conseil de sécurité nationale pour mener des discussions avec Ghazi Hamad ou tout autre responsable du Hamas. Il s'agit là d'une fake news, a-t-il déclaré. Le département d'État américain a envoyé un télégramme aux ambassades du monde entier demandant aux diplomates d'exhorter les gouvernements des pays hôtes à renforcer la sécurité aux abords des synagogues pendant les grandes fêtes juives. Nous exhortons votre gouvernement à déployer des forces de l'ordre, des forces antiterroristes ou des forces militaires selon le cas, auprès des synagogues et autres lieux accueillant des offices ou des événements, a indiqué ce télégramme dont le site d'information JNS a été le premier à obtenir la copie. Une note similaire avait été envoyée avant la Pâque juive l'année dernière. Des représentants de 14 pays occidentaux et de l'Union européenne en Israël et dans les territoires palestiniens ont condamné l'intervention israélienne menée le 25 août dans des installations de l'UNRWA, notamment au centre de formation de Calandia et sur les sites de l'agence à Jérusalem-Est. Dans une déclaration commune, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Danemark, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur soutien à l'agence onusienne et dénoncé ce qu'ils qualifient d'entrée illégale et de saisie de ces installations. Ils ont rappelé que les sites de l'ONU bénéficient de protections prévues par le droit international et ont appelé Israël à cesser sans délai toute perturbation des activités de l'UNRWA afin de lui permettre d'exercer son mandat. Israël annonce expulser les représentants néerlandais du Centre international de soutien à Gaza. C'est l'objet de l'entretien du 18h. On en parle avec Stéphane De Vries, journaliste indépendant. Stéphane De Vries, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, on va parler de l'actualité de cette semaine. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a annoncé mardi l'expulsion immédiate des représentants des Pays-Bas du Centre international de soutien à Gaza, un centre qui est basé à Kiryat Gat. C'est une décision qui a été prise avec l'accord de Benjamin Netanyahou en réponse à ce que le chef de la diplomatie israélienne a décrit comme une série de mesures anti-israéliennes adoptées par le gouvernement néerlandais. Alors on va évidemment revenir sur toute cette décision, mais comment est-ce que ça a été accueilli aux Pays-Bas, Stéphane De Vries ?
Assez froidement, le ministre des Affaires étrangères, Tom Berendsen, a dit qu'il regrettait la décision et qu'il est en contact direct avec Sarr. Il respecte donc la décision israélienne, mais il ajoute aussi que l'interdiction, elle, ne bougera pas. Il glisse aussi une explication qui vaut une sorte d'analyse. Quant à moi, il dit « Nous sommes à 2 mois des élections israéliennes du 27 octobre ». Donc, il place clairement cette décision dans le cadre de la campagne électorale en Israël.
Alors justement, c'est une décision qui marque une nouvelle fois la dégradation des relations entre Israël et les Pays-Bas. On a observé cela depuis le 7 octobre 2023 et cette montée flamboyante de l'antisémitisme que vous avez vécu chez vous. Comment ça va?
Évidemment, il y a des incidents antisémites, mais j'ai l'impression que les derniers mois, ça s'est calmé un peu. Mais ça reste quand même une préoccupation du gouvernement qui prend ce problème très au sérieux. En même temps, il y a aussi d'autres décisions qui ont eu lieu. Par exemple, cette semaine, la chaîne télé publique Avrotros a décidé de ne plus participer à l'Eurovision l'année prochaine. Notamment parce que l'Israël participera encore. Donc, pour les Israéliens, c'est clair, les Néerlandais, très anciens alliés dès la naissance de l'État hébreu, n'est plus l'allié qu'il était. Et puis maintenant, donc, l'interdiction des produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie et du Golan sera interdite et c'est vécu par l'Israël comme une nouvelle gifle, en fait.
Est-ce qu'on a atteint quasiment un point de non-retour dans les relations entre Israël et les Pays-Bas?
Non, ça je crois pas. Les Néerlandais sont très attachés à garder des relations diplomatiques avec Israël. Mais il est vrai que les gouvernements actuels, aussi le gouvernement précédent, sont beaucoup plus critiques envers le pouvoir israélien qu'il n'était dans les années 80, 90 et au début de ce siècle. Mais ça reste un sujet assez sensible auprès des Néerlandais. Comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis d'Israël? C'est un débat qui a lieu dans toute la société, aussi dans la politique. Et on n'arrive pas vraiment à trouver une réponse. Ce qui est clair, c'est que la popularité dont bénéficiait l'Israël a complètement disparu. Maintenant, il y a pas mal d'Israéliens qui vivent aussi aux Pays-Bas. Il y a pas mal de Juifs et il y en a beaucoup qui ont peur de dire qu'ils sont Juifs ou certains Israéliens, eux aussi, ont peur de dire qu'ils sont Israéliens, même s'il y a maintenant aussi une population importante de l'Israël qui a notamment quitter l'Israël pour des raisons politiques. Donc, il trouve quand même accueil aux Pays-Bas. Mais c'est clair que le sujet est brûlant, on pourrait dire ça, même si les débats se sont calmés un peu les derniers mois.
On voit que le Premier ministre Rob Yetton, il fait donc partie du Parti démocrate 66, qui est un parti social-libéral. Aujourd'hui, il n'y a plus que la droite, il n'y a plus que Geert Wilders qui défend l'État hébreu coûte que coûte.
Oui, plus ou moins. Donc l'extrême droite, mais aussi les partis chrétiens orthodoxes. Il y en a deux aux Pays-Bas. Traditionnellement, les chrétiens défendent, enfin surtout les chrétiens orthodoxes défendent bec et ongle l'Israël. Eux, ils restent encore derrière le pays hébreu. Mais en même temps, même au sein de ces partis, la critique monte vis-à-vis du gouvernement israélien et donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu parce que l'Israël a toujours été un plus ou moins hors critique aux Pays-Bas, mais c'est plus du tout le cas.
Vous parliez tout à l'heure de la communauté juive aux Pays-Bas, qui est quand même assez importante. Comment est-ce qu'elle vit cette situation? Nous, on reçoit ici sur les ondes de Radio Judaïka souvent le rabbin Jacobs. Comment est-ce qu'elle vit la situation, la communauté juive aux Pays-Bas?
Y a beaucoup de juifs qui ont peur de dire qu'ils sont juifs, donc ils se sentent menacés. Il y en a aussi d'autres qui portent l'étoile David pour montrer qu'ils sont juifs. Et il y en a aussi qui sont très critiques vis-à-vis l'Israël. Donc il y a plusieurs groupes. Il y a aussi de plus en plus d'Israéliens. Et eux, leur relation avec les juifs néerlandais qui habitaient déjà est aussi assez compliquée. Donc il y a beaucoup de groupes sanguins, si vous voulez, au sein de la population, la communauté juive, si elle n'existe pas vraiment, hein, mais il y a beaucoup de courants différents. Mais il y a beaucoup de juifs quand même qui ont peur, beaucoup plus que dans le passé. Il faut dire que l'antisémitisme a toujours été présent, et par période, il est un peu plus présent que d'autres. Et je crains que maintenant, il est un peu plus présent que, disons, il y a 10 ans peut-être.
Ici, en Belgique, par exemple, c'est vrai que ça tarde un peu à prendre des décisions en termes de lutte contre l'antisémitisme. Par exemple, on fait partie des pays européens qui n'ont pas de coordinateur national pour lutter contre l'antisémitisme. Pour le coup, vous l'avez déjà un peu rappelé, mais c'est quelque chose qui concerne les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques aux Pays-Bas, cette lutte contre l'antisémitisme. On dissocie les actions de l'État d'Israël à la sécurité de la communauté juive aux Pays-Bas.
Oui, absolument. Le gouvernement actuel et aussi le gouvernement précédent sont très très préoccupés par le sort des juifs néerlandais parce que c'est un groupe qui a toujours fait partie des Pays-Bas depuis le 15e siècle, 16e siècle et ils font partie intégrante de la société néerlandaise. Bien évidemment, les Pays-Bas c'est aussi le pays où le plus grand nombre de juifs a été déporté, exterminé pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est aussi un traumatisme non seulement chez les juifs néerlandais bien sûr mais aussi en quelque sorte, chez les Néerlandais, il y a toujours une sorte de culpabilité, même si ce sentiment est en train de disparaître, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de témoins qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qui explique aussi un autre rapport à l'État israélien, car avant, il y avait beaucoup de culpabilité, de honte aussi en ce qui concerne le comportement des Néerlandais pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout cela est un peu en train de disparaître. Donc, non seulement donc, la population néerlandaise change de composition, mais également les Juifs qui habitent aux Pays-Bas, eux aussi changent de composition, notamment par une grande influx des Israéliens qui s'installent notamment à Amsterdam.
Stéphane De Vries, vous êtes journaliste et correspondant pour les affaires européennes à Amsterdam. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka.
Je vous en prie.
Dans l'actualité internationale maintenant, la Russie a menacé aujourd'hui de frapper des cibles militaires britanniques, y compris en dehors du territoire ukrainien, en réponse à l'utilisation par Kiev de missiles britanniques contre des objectifs situés en Russie. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a appelé le Royaume-Uni à renoncer à sa politique de soutien militaire à l'Ukraine, estimant que celle-ci risquait de provoquer une nouvelle escalade du conflit. Elle a également accusé le Royaume-Uni et la France de jouer avec le feu en fournissant à Kiev des technologies sensible dans les domaines des missiles. Direction le Népal maintenant. Plus de 1300 personnes sont toujours portées disparues aujourd'hui après des coulées de boue qui ont dévasté les vallées du Népal et de la région chinoise du Tibet hier, faisant au moins 165 morts à la frontière entre le Népal et la Chine. Les autorités népalaises étaient ce matin sans nouvelles de 823 personnes au lendemain des crues dévastatrices. Selon un décompte de l'agence de gestion des situations d'urgence, ce nouveau bilan népalais inclut 579 touristes dont 393 de nationalité étrangère. Les autorités chinoises ont pour leur part fait état de 558 personnes portées disparues sur leur territoire, dont 260 étrangers. Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost a indiqué être sans nouvelles de 3 compatriotes dans la région concernée. Environ 70 Belges sont enregistrés comme présents au Népal auprès du SPF Affaires étrangères via le portail Travelers Online. Au moins 15 compatriotes se trouvaient dans les régions sinistrées au moment des intempéries, selon les informations dont dispose le SPF. 3 de ces 15 personnes n'ont pas pu être contactées. Nous prenons les mesures nécessaires et nous sommes en liaison avec leurs proches, a assuré le porte-parole du SPF Affaires étrangères. Et puis on termine avec l'actualité à Bruxelles. Face à la multiplication des fusillades liées au trafic de drogue, Bruxelles renforce son dispositif de sécurité. Le Conseil régional de sécurité convoqué hier soir par Boris Dilliès a annoncé une série de mesures pour s'attaquer aux violences liées à la drogue en région Bruxelles-Capitale. Était présent à cette réunion importante le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin, la ministre fédérale de la Justice Annelies Verlinden, le procureur du roi Julien Moigny, la commissaire nationale aux drogues Ine van Wimersch, la haute fonctionnaire Sophie Lavaux, ainsi que des bourgmestres et représentants des zones de police bruxelloises. À l'issue de cette réunion, le Conseil a décidé de déployer 40 policiers supplémentaires et l'installation prochaine de 20 caméras mobiles dans les quartiers les plus exposés. Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles, a par ailleurs acté au nom de la conférence des bourgmestres l'octroi de renforts venus d'autres zones de police locales pour épauler la zone midi, à savoir Anderlecht, Forêt, Saint-Gilles. L'objectif est d'intensifier la présence nocturne et en journée dans les points chauds, tout en offrant aux enquêteurs l'oxygène nécessaire pour démanteler les filières criminelles. Boris Dilliès sera l'invité de la matinale de Radio Judaïka demain à 8h30.